C'est une question aussi dérangeante qu'utile, un débat qui réveille les passions autant qu'il fait taire ceux qui ne veulent pas trop se mouiller. Quel lien Rennes entretient-elle avec la Bretagne? Trop à l'ouest pour les uns, pas assez bretonne pour les autres, la ville du Parlement, cité des institutions et hôte du Roizen Park, joue souvent les têtes de Janus. D'aucuns parleront même de schizophrénie. À un mois des élections régionales, Place Publique revient sur un sujet tabou pourtant bien présent en arrière-plan des programmes politiques. À l'heure de la métropolisation et du rayonnement à tout prix, quelle stratégie pour Rennes? Comment cette ville finalement peu connue peut-elle s'imposer comme la capitale d'une région à forte identité? Alors que certains imaginent déjà Rennes banlieue de Paris avec la ligne à grande vitesse, militants de la première heure ou communicants opportunistes jouent à fond la carte du BZA. Rennes et la Bretagne, un enjeu capital, c'est tout de suite et pendant une heure dans Chercheurs en ville.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Wikiradio de l'UEB.
Bonjour à tous, notre invitée du jour est la journaliste Anna Quéré, bonjour.
Bonjour.
Cette bretonnante spécialiste des langues régionales répond aux questions du rédacteur en chef de Place Publique, Xavier de Bontrid, bonjour.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Et Christian Lebar, directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, bonjour.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Messieurs, c'est à vous.
Merci Renan. Oui, effectivement, on invite avec grand plaisir ce matin Anna Quéré, vous l'avez dit, qui est journaliste, spécialiste des questions de langue régionale. Vous parlez d'ailleurs, écrivez breton. Et nous nous sommes rencontrés dans la préparation du numéro de Place Publique consacré, comme le rappelait Renan à l'instant, à la question de Rennes et la capitale de la Bretagne, l'enjeu entre Rennes et la Bretagne. Vous nous avez écrit une série d'articles tout à fait intéressant justement sur la place de la langue dans la ville, de la langue bretonne et du gallo, parce qu'il y a des langues régionales au pluriel, on va y revenir dans quelques instants. C'est un débat effectivement, comme on le rappelait en introduction, un petit peu tabou, un petit peu passionnel aussi, c'est ça qui nous a intéressé, c'est ce que vous vivez vous depuis plusieurs années, que vous vivez ici à Rennes et que vous parlez breton à Rennes.
Oui c'est vrai, en fait, juste pour revenir personnellement, moi je suis du Finistère et j'ai appris le breton à la maison et aussi à l'école. J'étais dans la première école bilingue en Bretagne et je suis un petit peu vieille, donc c'est dans les années 70. Et en fait, effectivement, quand je suis arrivée à Rennes, j'ai constaté que la langue bretonne était présente. C'est effectivement, aujourd'hui, je l'ai noté dans mon article, la ville qui scolarise le plus d'enfants en langue bretonne. Mais de là à dire que c'est la ville où il y a le plus de locuteurs bretonnants, c'est pas la même chose. Et effectivement, Rennes, c'est une ville de Haute-Bretagne. On en parlera, on dira peut-être ce que c'est la Haute et la Basse-Bretagne tout à l'heure, mais Rennes, c'est la langue bretonne, c'est aussi la langue aussi parfois d'un petit monde, mais ce petit monde est un monde dynamique, et effectivement c'est ce que je vis aussi aujourd'hui.
Alors un petit monde qui vit de manière dynamique, mais peut-être en cultivant un certain entre-soi, on en parlera. Vous avez évoqué le terme de locuteur, que l'on comprenne bien, tout le monde n'est peut-être pas familier hein, de la sémantique qui s'applique justement aux pratiques des langues, et singulièrement de la langue bretonne ou du gallo. Un locuteur, c'est quelqu'un qui parle et qui comprend, qui...
Ah oui, un locuteur, c'est, oui, en général, oui, c'est quelqu'un effectivement qui comprend et surtout qui le parle. Après, on peut dire un petit mot sur, j'ai dit le mot bretonnant, et c'est vrai que j'utilise peu britophone. On peut utiliser les deux. Dans l'article, j'ai utilisé les deux pour que tout le monde s'y retrouve finalement. En fait, bretonnant, c'est quelque chose dont on applique ce terme aux personnes qui parlent le breton, mais depuis quelques temps, britophone émerge également.
Ça fait plus sérieux, ça fait plus universitaire, je me trompe.
Peut-être, disons qu'en tout cas, ça fait comme francophone, germanophone, etc.
C'est une vraie langue, quoi.
C'est comme si c'était une... Oui, effectivement.
C'est une vraie langue,
donne
de
sûrement,
toute façon.
Ça donne en tout cas sûrement une image plus...
officielle.
Officielle du breton. Par contre, il y a une petite... De manière sémantique, on peut peut-être le critiquer un petit peu ce mot, parce que britophone, en fait, le britonique, c'est une... c'est une branche de la famille des langues celtiques. Les langues celtiques, elles sont composées composé de deux branches, dont la branche britannique. Et dans la branche britannique, il y a le gallois, le cornique et le breton. Donc en fait, c'est comme si on parlait une langue britannique. Mais non, on parle pas gallois, on parle pas cornique, on parle le breton. Donc peut-être qu'il faudrait dire bretonophone, je sais pas. Mais en tout cas, entre bretonnant et britophone, en tout cas, n'hésitez pas. Enfin voilà, c'est la même chose en fait.
On peut parler avec des mots différents d'un même concept et d'un même constat.
Tout à fait.
Christian Lebar, Maison des sciences de l'homme en Bretagne.
Oui, alors est-ce que derrière ce débat sémantique, il n'y a pas plus fondamentalement une question qui est le statut des gens qui parlent breton à l'échelle d'une ville comme Rennes. C'est-à-dire, c'est pas une langue qui résiduelle, qui aurait résisté dans certains quartiers ou dans certains milieux à la modernité. Et
on ne parlait pas breton à l'époque ou ailleurs, on parlait breton, c'est bien ça.
Une forteresse sur la défense, mais c'est bien une reconquête de la part de gens qui sont plutôt du côté des élites sociales et qui sont, là peut-être faut nuancer, et qui en tout cas sont plus dans une posture militante que dans une posture d'héritier.
Alors en effet, déjà pour la première partie de la question, c'est pas effectivement une langue résiduelle comme vous le dites, c'est-à-dire que au début du XXe siècle, on ne parlait pas breton à Rennes de manière il y avait pas de locuteur vraiment du breton à Rennes. Par exemple à Brest, j'ai étudié un petit peu ça et effectivement par exemple début du XXe, le commissariat de police même à Brest, il y avait beaucoup plus de bretonnants parce qu'on était en Basse-Bretagne et le commissariat de police à Brest se désolent parce qu'ils n'ont pas assez de personnes en fait qui parlent le breton pour surveiller même la petite délinquance brestoise qui sont très bretonnants. Voilà, c'est juste pour montrer un exemple historique là-dessus. Après aujourd'hui effectivement, c'est une sorte de reconquête parce que d'abord, il y a eu une forte migration de la Basse-Bretagne vers cette grande métropole qu'est Rennes. Aujourd'hui, je crois qu'il me semble que là, il y a 20%. J'ai plus le chiffre en tête, désolée. Mais en fait, c'est vrai que Rennes est une ville attractive et ça dure depuis très longtemps. Nantes l'a été aussi. Il y a beaucoup de bretonnants à Nantes parce qu'il y a eu beaucoup de migrations économiques vers Nantes et vers Rennes. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de bas bretons, dont moi par exemple, qui habitent Rennes et qui pratiquent cette langue. Qu'on puisse dire que
donc il y aurait des bretons à Rennes comme il y aurait des Corses à Paris.
Un petit bon. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Par contre,
si on retrouve d'ailleurs dans le dossier de Place Publique cette influence des bas bretons, singulièrement par la présence des étudiants venus nombreux de cette partie de la Bretagne étudier, poursuivre leurs études supérieures à partir des années 60-70 pour faire court, et qui ont donné une coloration bretonne à la ville qui en manquait peut-être à l'époque.
Oui.
C'est un thème qu'on explore de différentes manières, mais je vous laisse poursuivre, Anna Kéré.
En effet, dans les années, c'est vrai que les années 70 sont des années aussi où justement ces étudiants bas bretons, parfois, enfin en fait, c'est aussi l'ascenseur social qui commence à fonctionner et la fac de Rennes 2 absorbe ces étudiants qui viennent de milieux sociaux peut-être plus modestes et donc aussi bretonnants ou enfin voilà très ancrés dans une culture traditionnelle. Ça, c'est un premier point. Après, pour dire aujourd'hui, est-ce que c'est le fait d'une élite sociale ? Voilà, c'est toujours un peu ça qui revient. Aujourd'hui, quand même, globalement, je dirais pas ça, parce que je pense que c'est pas tout à fait le cas. C'est au contraire, je suis assez étonnée du fait que ça se démocratise énormément.
Diversité sociale,
partout.
Mais conscience forte d'appartenance ?
Oui, tout à fait. Je dirais ça. Il y a une diversité sociale un très fort sentiment d'appartenance, un sentiment de réappropriation de la langue. Alors ça, c'est étonnant. Les gens, vraiment, c'est la grande démarche aujourd'hui. C'est la réappropriation de la langue. Bon, après, pour revenir sur le côté vraiment social, sociologique, on pourrait quand même dire que c'est des gens qui ont un certain capital culturel quand même.
Ma maman, aimerait bien parler breton, mais elle ne sait pas parler.
Elle a envie d'apprendre ? Et toi, tu lui apprends ?
Un petit peu.
Eux, ils ont appris différemment. Nous, on avait, à notre manière, à nous, un peu phonétiquement, on écrivait un peu aussi, quoi. Donc, on a fait quelques fautes d'orthographe. Bon, Marion qui me dit, Baptiste, c'est pas comme ça qu'on écrit. Alors, j'ai dit la prochaine fois, je vais prendre le dictionnaire, et puis comme ça, je ne ferai pas de fautes d'orthographe.
C'est vraiment intéressant parce que, par ailleurs, tous les travaux sur l'école, sur les choix des familles en matière d'investissement scolaire, comme on dit maintenant, etc., tous ces travaux se réfèrent toujours à un modèle qui est l'utilitarisme, l'accès à l'emploi, l'utilité des langues rares, etc. Et c'est de cette façon-là que invariablement on rend compte du goût pour l'enseignement du chinois, des langues, etc. Et il n'y a pas ça ici. C'est vraiment un choix. C'est pas un choix utilitaire. C'est bien un choix avec une dimension identitaire.
Ah oui, parce que enfin, il y a les deux. Il y a aujourd'hui un petit choix utilitaire quand même parfois, parce que en fait, c'est le petit plus parfois qui va faire la différence sur un CV d'avoir, par exemple, été, fait du breton ou même été au lycée en breton, etc. Ou avoir fait ses études. Enfin voilà, il y a un petit plus quand même.
Il y a
sur
bien
la
une logique
bretonne.
De CV alors.
Pas tellement, mais en tout cas, on peut dire que elle n'est pas complètement. Négligeable, enfin. Ouais.
Et il y a peut-être aussi une logique de gymnastique intellectuelle. Quand on discute avec notamment des parents qui mettent leurs enfants dans les écoles bretonnes, souvent ils nous disent, moi je parle pas breton, mais ça me paraît intéressant que dès son plus jeune âge, mon fils ou ma fille s'ouvre à cette musicalité. Ça va lui servir après pour l'apprentissage d'autres langues un peu plus tard dans le cursus traditionnel.
Voilà,
vous le confirmez?
Oui, tout à fait.
Ça,
en fait, les personnes qui mettent leurs enfants dans les écoles bilingues ou d'Iwan, ils ont, en fait, il y a à peu près deux public, on va dire. Il y a un public qui est vraiment imprégné. J'ai remarqué aussi parmi les parents que je connais, il y a beaucoup de gens justement qui viennent de Basse-Bretagne et qui ont un lien direct avec la langue bretonne, soit leurs parents, leurs grands-parents
souvent. Ouais.
Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc pour eux, la langue bretonne, c'est pas quelque chose d'anodin. Ils ont envie que cette langue continue à être transmise et notamment, ils comptent sur l'école pour le faire. Et il y a aussi un autre public qui est différent, mais pourquoi pas, qui se disent que mon enfant soit bilingue, ça compte. Et en fait, effectivement, Gwen Velgekel, par exemple, aussi, qui dirige School on Emsa, dit c'est curieux parce que les adultes ne vont pas beaucoup prendre des cours de breton, mais par contre, ils comptent sur leurs enfants.
Il dit les parents considèrent que ce sont leurs enfants qui font le travail de réappropriation et cela leur suffit. Hein,
oui.
C'est ce que dit le directeur de School on Emsa. Je ne sais pas si je prononce comme
très
il faut.
Bien,
ça y est,
parfaitement, bravo Xavier.
Je me suis amélioré grâce à vous, Anna. Il y a aussi, vous avez rencontré dans votre reportage Emmanuel Roy, lui qui n'est pas originaire de Bretagne, il a 40 ans, il est arrivé à Rennes. Il avait vraiment un désir de Bretagne, comme disent certains en ce moment, et il a eu envie de scolariser ses enfants dans cette langue-là. Ça faisait partie, j'allais dire, de l'itinéraire ou du parcours.
Oui, j'ai trouvé que c'est pour ça. Je le connaissais déjà et à l'occasion de cet article, je me disais que ça pouvait être vraiment quelqu'un d'intéressant. En fait, Emmanuel, il est né à Paris, mais il était d'origine bretonne, ses parents, son père, et il avait déjà commencé à apprendre le breton à Paris. Arrivé à Rennes, il dit dans l'article, je voulais enfin vivre la Bretagne. Et effectivement, donc du coup, il a continué à apprendre des cours de breton. C'est aujourd'hui un excellent bretonnant. Mais du coup, il a scolarisé aussi ses enfants et les élèves en breton. Donc, une autre démarche. Enfin, cette démarche-là, elle rejoint celle des parents qu'on rencontre aujourd'hui dans les écoles.
Alors, on parle beaucoup du breton, évidemment. On le voit aussi dans l'espace public. C'est les noms de rue qui sont traduits. C'est la signalétique bilingue. Alors, selon le regard que l'on porte sur ces questions-là, soit on n'en fait pas assez, soit on en fait trop. Vous avez réussi dans vos papiers à garder la distance journalistique nécessaire pour aborder ce phénomène-là. Et pourtant, on sent que la passion, elle est vraiment là pour le coup au coin de la rue.
À fleur de peau, oui. J'ai trouvé que les gens étaient très sensibles sur cette question-là. Oui, en effet, c'est vrai que la signalétique, c'est quelque chose... C'est l'exposition d'une langue dans l'espace public. Et cette exposition de langue, ça compte beaucoup pour certains. Bertrand Aubry, dans l'autre sens, donc c'est quelqu'un qui est chanteur, qui milite beaucoup pour la langue gallaise, raconte aussi que...
Le galop, voilà.
Voilà,
on
pour
en,
le
on
galop.
On va en parler tout à l'heure.
Et, mais c'est juste pour montrer que c'est très sensible parce que, effectivement, il dit, si le galop n'est pas présent dans la place publique, il faut que ça existe, quoi. Vraiment, et c'est une manière de montrer ça. Donc c'est pour ça que c'est si sensible, en fait, cet problème de signalétique. Après, c'est étonnant parce que, je vous donne juste un exemple, à l'autre bout de la planète, le créole, par exemple, il y a 90% des gens en Guadeloupe qui parlent le créole. C'est une langue très vivante et ça fait que quelques années à peine qu'il y a des panneaux qui sont en créole. Aujourd'hui, l'université, l'école, des panneaux de signalisation routier, ça commence seulement à émerger en Guadeloupe, alors que la langue est extrêmement vivante. Donc,
alors,
vous voyez,
ceux qui n'y connaissent rien, voilà, et dont je suis, rétorqueront peut-être à cela, mais c'est parce que le galop, comme le créole, c'est d'abord une langue parlée, on ne l'écrit pas, et quand on l'écrit, c'est moche. Vous entendez ça?
Ben, moi, j'ai fait de la sociolinguistique, donc évidemment, je peux vous redonner quelques éléments. En fait, les scientifiques, ils disent qu'il y a à peu près, il y a énormément de langues dans le monde qui, soi-disant, entre guillemets, ne s'écrivent pas. En fait, ça veut rien dire. Par exemple, c'est comme si les langues amérindiennes aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, ne pourraient pas être écrites sous prétexte que c'est des langues traditionnelles, des indigènes, entre guillemets. Donc ça veut rien dire. Après, le problème du gallo, comme celui de l'occitan, comme celui du créole, c'est des langues qui sont, par leur histoire, proches du français. Et donc, du coup, quand elles s'écrivent, on retrouve cette proximité avec du français qui va gêner parfois.
Ils ont fait des fautes. Voilà.
Voilà. Alors, c'est ça qui gêne un peu et qui, évidemment, est toujours difficile. L'existence de ces langues est difficile de par leur proximité avec le français. Et donc leur existence dans l'écrit automatiquement pose parfois pose question, on va dire, mais ça ne les empêche pas du tout d'être écrites et d'exister dans l'espace public. Après, juste c'est vrai que si vous avez déjà regardé comment s'écrivait l'italien, moi ma fille a fait italien au collège et ça m'amuse de voir, parce que quand je lis de l'italien, c'est pareil, je suis pas trop perdue, comme vous tous. Vous parlez français, quand vous lisez de l'italien, évidemment, vous ne comprenez pas tout. Mais il y a une proximité, c'est normal. C'est une langue romane qui est proche du français. Donc effectivement, l'écrit, on la retrouve.
Christian Lebar, une question.
Oui, je voulais revenir sur la question de la signalétique, parce que je pense que c'est très très important quand on raisonne sur la ville, sur la place des langues dans une ville. Forcément, on rencontre cette question. Oui. Et puis, moi, je suis en sciences politiques. En sciences politiques, voilà, ça s'appelle la politique symbolique. C'est les politiques par lesquelles on active ou on désactive des identités. Donc, on interpelle les gens en tant que concernés ou pas par telle ou telle langue. Et puis, la signalétique, c'est aussi la compétence municipale. Donc, c'est pour moi aussi une occasion de vous poser la question suivante. Ce qui est très passionnant dans le numéro de Place Publique, c'est qu'on voit bien que, au fond, en 77, quand la gauche arrive au pouvoir à Rennes, la question de la langue bretonne n'est pas centrale. C'est moi qui
l'ai
dit.
Elle
est très loin d'être centrale. Hein. Et donc, petit à petit, elle va être mise à l'agenda au fil des décennies, au fil des années, à la faveur d'un retour des régionalismes plus culturels que politiques, d'ailleurs. Et voilà. Et la gauche socialiste à Rennes va y venir, en quelque sorte. Mais vraiment, on a l'impression à reculons, d'autant plus à reculons que, comme vous le disiez, je le redis brutalement, on n'a jamais parlé breton à Rennes. Quoi. Donc, du coup, on a l'impression d'une greffe qui s'est presque fait au dépens, à contre-cœur.
Vous avez une question, Christian ?
Ah ben non, c'était ça.
C'est... Ah bon, c'est une remarque.
C'est vrai que par contre, j'ai pas été très claire quand on parle de la signalétique. Effectivement, on parle donc surtout de la signalétique actuelle à Rennes, qui est en langue bretonne. Et c'est tout un... ça rigole à côté de moi, là. En fait, oui, c'est ça, c'est l'expression. Comme une sorte de demande sociale. Effectivement, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, il y en a qui trouvent qu'on va pas assez loin, et d'autres que c'est pas la place, que la langue bretonne prend trop de place. Enfin, ça, c'est aux militants d'en décider. C'est à la ville de Rennes. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose, de montrer un peu au moins un état des lieux, quoi, des choses.
Mais ça veut dire qu'il y a des groupes de pression derrière. Ça veut dire qu'il y a des alliances partisanes aussi qui ont pu jouer à certains moments, peut-être.
Ben, je répondrai pas là-dessus. Je sais pas exactement. En tout cas, il est sûr que je dirais pas. C'est pas une certaine pression, mais c'est comment dire. En fait, les Bretonnants, ils ont une culture de la... Ils attendent pas d'avoir... En fait, ils demandent beaucoup.
Oui.
C'est des militants, quoi.
De la pression.
Et donc, c'est des militants, et comme en Pays Basque ou ailleurs. Et ouais. Ils y vont et ils essayent d'obtenir ce qu'ils veulent. Après, il y en a qui m'ont dit « Oui, mais on n'est quand même pas comme à Dublin, par exemple, où toute la ligne de tramway est bilingue en gaélique et en anglais. » Voilà. Donc ça va pas assez loin.
Oui, il y a quand même une conseillère municipale que vous avez d'ailleurs rencontrée, hein, qui est conseillère municipale à la diversité linguistique, Anna Soyer, qui est d'ailleurs membre de l'UDB, donc qui incarne ce courant régionaliste au sein de l'équipe municipale rennaise, et donc qui porte ce choix et cette identité très très marquée.
C'était un couturier de Bordeaux-Milieu.
C'était un couturier, débordeur au milieu,
qui allait voir les filles le soir après soupe.
Au bougre, tra-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la,
avec la plus belle fille du bourg de Jobs.
Avec la plus belle fille du bourg de Jobs,
qui a les sourcils jaunes et le paille tout d'or.
Au bougre, Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Il y a aussi, on l'a évoqué, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu, parce que le gallo, qui est la deuxième langue du territoire, est quand même marqué, alors on va pas faire le coup du mépris, mais un peu quand même, on entend dire ça parfois, c'est un patois, c'est un dialecte, c'est la langue des ploucs. Et on voit quand on discute avec les représentants de cette culture galaise, qui est une vraie culture, qui a une histoire et surtout une réalité contemporaine, qu'ils ont une vraie fierté hein, à défendre toute cet héritage-là. Et c'est beaucoup plus moderne que l'image que l'on a quand on ne les connaît pas. C'est ce qu'on voit bien dans l'entretien que Bertrand Aubry, d'ailleurs, vous a accordé.
Tout à fait. En fait, la langue galaise, plus qu'on ne croit, donc c'est une langue d'Oyle, qui est comme le Picard, par exemple, ou comme le Tourangeau, comme le Normand. Donc c'est des langues d'Oyle qui sont plutôt dans la partie nord de la France. Et c'est des langues qui sont plutôt issues du latin populaire en fait. Donc c'est des langues romanes issues du latin populaire et qu'on appelle qui font partie de cette grande famille des langues d'Oyle. Et voilà. Donc en fait en Bretagne, la Bretagne est divisée en gros en deux parties qui est on parlait plutôt breton et français à l'ouest et plutôt gallo donc et français à l'est. Et ce gallo, ma foi, a eu une vie difficile jusqu'à présent parce que effectivement. C'était une langue, même ma grand-mère qui habitait sur la frontière linguistique dans le Morbihan disait toujours ces gallos là qui savent ni le breton ni le français, franchement c'est rien quoi, voilà. C'est drôle de voir ça quoi. Ils savaient même pas le breton alors le français, oh là là, ils ne savaient pas non plus, enfin bon. Et aujourd'hui effectivement il y a une vraie je pense qu'il y a une vraie existence du gallo, une vraie reconnaissance aussi. On a enfin eu une enquête aussi sur le nombre de personnes qui parlent gallo, et il y a
près 200 000 impressionnant, 200 000 locuteurs. Mais ça commence quand alors? Parce que est-ce qu'il suffit de connaître quelques mots, quelques expressions assez savoureuses d'ailleurs, hein, souvent, pour se ranger dans cette catégorie-là, ou est-ce qu'il faut
être capable d'avoir une conversation? Après, je connais pas exactement. J'ai vu les chiffres, mais j'ai pas vu exactement les précisions sur cette enquête. C'est BCD, Bretagne Culture Diversité, qui a mené fait parvenir ces chiffres. Voilà, le gallo aujourd'hui, du coup, il a souffert d'un manque de reconnaissance. Aujourd'hui, les choses changent, mais c'est aussi grâce à des gens comme Bertrand Aubry qui ont énormément travaillé sur la question et qui, par exemple, proposent des contre-exemples. Eux, ils ont fait la signalétique de la piscine de la communauté de communes de Fougères, je crois, si je ne me trompe pas.
Voilà.
Et c'est très intéressant de voir. Il a dit que c'était super bien.
On va demander. Christian Lebar habite à Fougères. Alors, voilà. Est-ce que vous parlez gallo? Vous n'allez pas à la piscine. Voilà. Mais est-ce que vous avez noté justement la présence de cette signalétique?
Revenir sur la dissymétrie entre le gallo et le breton, parce que Xavier en parlait tout à l'heure, il me semble que c'est vraiment une question importante, parce qu'il y a un vrai quand même déficit de légitimité du gallo par rapport au breton, qui est à mon avis pas une question de nombre de personnes à en parler, mais qui est vraiment lié au fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, le gallo est quand même un symbole identitaire très ambigu, très ambivalent, parce qu'il symbolise quand même la présence française. Enfin, je veux dire, on peut difficilement penser autrement que sur le mode de l'écart par rapport au français. Alors que le breton est vraiment une alternative identitaire forte à la France.
Mais voilà. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Par exemple, pour le créole, c'est sûr, c'est une langue, juste pour revenir, en fait, le créole, c'est une langue qui a été créée quand, en fait, au moment de l'esclavage, les maîtres et les esclaves ont besoin d'avoir des contacts. Les esclaves viennent de plusieurs endroits d'Afrique, de toute la côte ouest de l'Afrique, et d'unité linguistique, et les colons non plus, finalement, parce qu'ils viennent aussi de tous les bords ouest de la France. Et donc, cela également parle différentes langues romanes, en général, ou peut-être même breton parfois. Et donc, il faut trouver une langue de contact. Cette langue de contact émerge et ça devient le créole. Mais aujourd'hui, le créole a... Évidemment, il y a des créoles à base lexicale française, donc proximité avec le français. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des bases les créoles à base lexicale, par exemple, hollandaise, et des créoles à base lexicale anglaise, je crois. Et en fait, c'est ça. Le problème du créole, c'est un peu pareil. C'est que la proximité avec le français fait que même les gens n'osaient pas parfois transmettre le créole parce qu'ils ont peur que les enfants enfants se mélangent entre le français, le créole, etc. Alors qu'en réalité, c'est une langue à part entière. C'est même la langue officielle de Haïti. Donc vous voyez ce que je veux dire, mais c'est aussi le problème du gallo, ça a été cette proximité constante avec le français et aussi le fait qu'effectivement, comme partout, c'est une langue qui n'a pas été la langue de l'élite. Contrairement, par exemple, au catalan, qui a toujours été la langue de la bourgeoisie.
Oui, c'est ça. Si on réfléchit, par exemple, sur ce qu'on peut appeler les dispositifs de légitimation des langues, il y en a deux qui me semblent très importants, qui historiquement ont joué un rôle très important pour le breton. C'est l'université, avec des filières bretons à l'université, et c'est l'édition en langue bretonne. Est-ce que, je connais la réponse s'agissant du premier critère, mais pour le gallo, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une édition en gallo? Est-ce qu'elle est active?
À ma connaissance, pas vraiment. Le gallo.
Il y a des traductions quand même en gallo.
Il y a des traductions.
Je me rappelle la traduction de Tintin
chose,
en gallo.
Il y a quelques petites choses à droite à gauche, mais c'est pas encore aussi ancré que l'édition en langue bretonne. Non, tout à fait.
Et il n'y a pas d'enseignement supérieur.
Alors, en enseignement supérieur, il y a eu des cours de gallo à la fac de Rennes 2 pendant un temps. Ouais. Tout à fait.
Est-ce que justement cette reconnaissance du gallo, elle serait peut-être moins sur le terrain académique ou de l'édition que dans le champ culturel, à travers des festivals, des pratiques, des jeux, je pense aux jeux de palais auxquels notre confrère Benjamin Kels vient de consacrer un savoureux petit manuel officieux, et il ancre totalement la pratique de ce jeu très populaire dans la culture gallaise.
Ouais. En fait, je pense que les cultures, elles sont diverses. En fait, Bertrand Aubry, à un moment, je sais plus si c'est dans l'article ou pas, il disait, finalement, c'est dire que en fait c'est comme si on imaginait en Belgique on parle belge, en Suisse on parle suisse et en Bretagne on parle breton.
Les
choses sont plus compliquées que ça. Et en fait tout est toujours, quand on parle des langues, en fait tout est toujours plus compliqué. Et en même temps c'est ça qui est sympa, c'est la diversité. La Bretagne c'est aussi des cultures différentes. Et moi j'avoue que quand je suis arrivée en Bretagne, j'ai découvert autre chose. Et je parle pas seulement de la galette saucisse. C'est une autre façon d'être. Je trouvais que les gens avaient pas les mêmes fonctionnements culturels, mais moi je trouvais ça passionnant, quoi.
Alors on fait une petite pause musicale, on va écouter un morceau du nouveau groupe de Franck Darcel, République, le bien nommé Democracy. C'est maintenant et on se retrouve avec vous Anna Kéré et Christian Lebar dans quelques instants.
Casual smile, neon lights. I've been around and I know you may change name, but still remain. You're a ghost, you're a pain. It's a shame I can't control all the love I feel inside. It's a shame we can't control all the fears we feel at night. I've been around and I know you may change name. Control. possible. This ain't no democracy. This ain't no democracy.
République avec le morceau Démocratie à l'instant sur l'antenne de Canal B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en ville. Ce mois-ci, nous nous intéressons au dossier de Place publique, la revue qui se penche sur les liens compliqués entre Rennes et la Bretagne. L'enjeu est capital, comme le rappelle le titre du numéro. Et on l'a entendu dans la première partie de cette émission, il y a un symbole en particulier qui marque l'écart entre Rennes et une grande partie de la région. C'est la langue bretonne parlée en Haute-Bretagne, mais surtout en Basse-Bretagne, une langue qui développe sans doute un sentiment d'appartenance à la région bien plus exacerbé à l'ouest qu'à l'est du territoire. La question, vous l'aurez compris, est passionnelle. Nouvelle illustration à venir en deuxième partie d'émission, le Rennes bashing, ou quand la capitale se voit elle-même exclue de la région. Elle serait trop parisienne, en plus d'autres adjectifs gratinés que vous découvrirez dans un instant. Pourtant, elle fait des efforts, Rennes, pour rayonner, pour être plus bretonne. Le festival Yaoundé, le Roison Park ou encore la signalétique bilingue, alors même que les sénateurs refusent de ratifier la Charte européenne des langues régionales. La deuxième partie de Chercheurs en ville, c'est tout de suite avec notre invitée, la journaliste Anna Kéré, qui répond aux questions de Xavier de Bontry, des rédacteurs en chef de Place publique, et Christian Lebar, directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne.
On parlait de culture à l'instant et on vient d'écouter un morceau de Franck Darcel, hein, une des figures de la scène rennaise. Lorsque l'on s'intéresse justement à l'incarnation dans la ville de la culture bretonne, de la ville de Rennes, on pense aussi à la musique. Et c'est parfois la musique bretonne qui a droit de citer à travers, je pense, au festival Yaoundé qui se déroule ces jours-ci tout le mois de novembre, hein, qui est le plus grand fest-noz de Bretagne, hein, si on en juge par le nombre de gens qui vont danser jusqu'à pas d'heure au Parc Expo à Rennes. Ça contribue à l'image bretonne de la ville.
Oui, tout à fait. Surtout qu'aucun artiste en Bretagne maintenant ne refuse d'aller. Au contraire, en fait, tous les artistes attendent de pouvoir monter sur cette fameuse scène de Yaoundé. Ça m'avait beaucoup étonné. C'est effectivement le plus grand fest-noz urbain de Bretagne, et c'est un fest-noz surtout qui draine des gens de très très différent, et je pense que oui, c'est aussi un changement culturel moi qui m'étonne, mais que je trouve assez amusant.
Alors on n'a pas encore parlé des symboles visibles, je pense au fameux drapeau breton, le Goénadu, qu'on voit de plus en plus brandi, alors dans les stades évidemment, le stade rennais au passage qui se rebaptise Roison du nom Park. Breton de Roison Park, bon, ça a fait aussi sourire, il y a eu du débat là-dessus. Vous en pensez quoi, vous, de cette bretonnité agitée au carrefour?
Plus personnellement, oui.
Non, en fait, en tant qu'observatrice, d'abord, ouais, l'évolution oui. que vous
en
avez pu constater, puisque vous en pensez
si,
aussi.
Si, le drapeau breton, moi, il est présent partout, quoi. Il est présent dans les manifs. Ça peut être dans les manifs.
Pas une manif nationale sans que tout d'un coup un drapeau breton surgisse de la foule.
Stades, voilà, il y a vraiment cette présence du drapeau breton, un petit peu partout. Les bonnets rouges, énormément. Ça a été, c'est une vraie présence. Après, je sais pas trop bien comment les gens l'identifient.
C'est une marque,
c'est
le M de McDonald's.
Je sais pas. non, j'irai pas jusque-là. Après, faut toujours réfléchir sur ce que c'est un drapeau, ce que ça représente. Et parfois, je pense que les gens n'y pensent pas. En fait, ils le voient plus dans un côté régionaliste. C'est pas le côté national, la patrie, la nation, etc. Je pense qu'il y a vraiment le côté, nous, on vient de
fierté
la Bretagne. On est fiers d'appartenir à notre région. Après, oui, moi j'ai toujours des drapeaux, je trouve ça toujours... Ça me pose question, on va dire.
Alors, on vous sent pas très à l'aise sur cette notion de l'étendard, parce que c'est ça en fait.
Ouais, hein. Après, je suis une observatrice aussi de la société, et voilà, je garde ma réserve là-dessus.
Eh bien,
je me reverrai.
Cela vous honore, Anna Kéré. Il y avait une question de Christian Lebar.
Ah oui, parce que sur le foot, parce que je trouve que l'histoire du changement de nom du stade ex de la Route de l'Orient est vraiment intéressante. D'une part, parce qu'avant il s'appelait Route de l'Orient, et ça, c'est vraiment en termes termes.
En termes de marketing, c'est pas terrible.
Désignation identitaire.
Surtout quand il y avait un match, un derby breton.
C'est
avec,
quand même étonnant.
Avec les Merlus.
Ouais. Et je pense au papier d'Hervé Martin dans.
Le Stade Rennais, phare à éclipse du football breton.
C'est vraiment très intéressant parce que on voit bien que le changement de nom est à peu près à contre-courant de l'histoire dans la mesure où pendant très longtemps, le Stade Rennais.
C'était le Stade de Bretagne.
C'était le Stade de Bretagne, voilà.
C'était l'équipe.
Il ouvre son papier en disant. Les collégiens, les lycéens partout dans les
pas un dimanche à 17h
qu'est-ce qu'à Ferenne
combien ça fait à Ferenne
samedi ou dimanche et à une époque aussi où au Stade Rennais il y avait des joueurs d'origine bretonne voilà il y a un centre de formation enfin etc et ils montrent que alors que le Stade Rennais devient une marque, alors que le Stade Rennais, bon, comme tous les clubs de foot aujourd'hui, voilà, voit passer des joueurs à un rythme accéléré, enfin voilà, des joueurs qui sont de plus en plus des mercenaires, donc le football se déterritorialise très paradoxalement. Et puis voilà que on essaie d'en refaire un peu un symbole métropolitain en le rebaptisant. Oui. Il me semble que là il y a un paradoxe tout à fait étonnant. Le foot est de moins en moins territorialisé
Oui, c'est vrai. Oui, je pense. Enfin, je rejoins un peu votre analyse, mais effectivement, le fait d'avoir voulu mettre Roison de Parc, c'est aussi une manière de réancrer Rennes dans la Bretagne. Quoi. Vraiment, c'est tout à fait le. Avec, enfin, je trouve que là, du coup, c'est totalement résonance avec le thème de place publique.
Qui était bien notre sujet. Vous avez raison,
Rennes est en
Anna
Bretagne et on va vous montrer par le foot, quoi.
Voilà, on a cherché dans ce dossier de place publique à explorer, à ausculter cette relation singulière, on le disait, entre Rennes et la Bretagne. Au départ, d'ailleurs, on avait même dans l'annonce du numéro qui vient de sortir, dans le précédent numéro, on avait fait un titre provisoire comme on le fait chaque fois, et on avait titré prochain dossier, Rennes est-elle encore, entre parenthèses, encore en Bretagne. Alors évidemment, c'était un peu provoque. On m'a dit, mais ça va pas, non, de faire un titre comme ça. Et là, j'ai déjà senti, avant même que le dossier soit sorti, qu'on était sur un sujet qui allait cristalliser, en tout cas susciter l'intérêt, ça, on l'espère, et les premiers retours que nous avons sur ce dossier tentent à le prouver, mais surtout que c'était très très sensible. Très sensible, que ce n'est pas du tout une question qui va de soi. Et c'est pour ça aussi que dans mon éditorial que j'ai intitulé « Silence est tabou », je parle de ces questions-là parce qu'on a été surpris collectivement à l'équipe de rédaction de Place Publique de certaines réactions que nous avons rencontrées lorsque l'on a commencé à enquêter sur ce sujet.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que le numéro fait bien le lien entre l'histoire longue de cette affaire-là et puis des mécanismes beaucoup plus contemporains. Et quand on interroge l'histoire longue, on voit qu'effectivement la question s'est posée, est-ce que Rennes n'est pas d'abord une ville administrative, c'est-à-dire une ville liée à l'État français qui s'implante en Bretagne, à Rennes, Rennes n'étant donc pas si bretonne que ça. Et puis la logique très contemporaine de la montée en puissance des métropoles à une échelle européenne, avec des métropoles qui, d'une certaine façon, peuvent être tentées de s'émanciper un petit peu des ancrages régionaux. Et donc du coup voilà, il y a un curieux télescopage entre l'histoire longue et puis l'histoire courte, et ça c'est très bien montré dans les papiers de Guy Baudel.
Oui, on a cherché effectivement, j'allais dire un petit peu à la manière de Place Publique, hein, vous savez comment nous fonctionnons traditionnellement, en essayant de marier l'expertise et le témoignage sur les sujets que nous traitons, et les experts historiens, économistes, géographes que nous avons sollicités ont inscrit effectivement leur réflexion sur la longue période et nous ont montré, comme vous le rappelez très justement à l'instant, que finalement cette histoire elle vient de loin et elle porte en elle des explications, des racines qui permettent encore aujourd'hui de comprendre que si finalement ce qui se passait au XVIIe, au XVIIIe siècle avec toute le débat autour de la localisation du Parlement de Bretagne par exemple, qui était loin d'aller de soi, dans son papier l'historien Gauthier Aubert nous parle presque de marketing territorial avant l'heure, de lobbying, effectivement, des élites rennaises qui se mobilisent et qui font le forcing sur ces questions-là. C'est drôlement intéressant, avec deux siècles de recul, de s'apercevoir que certains sujets, finalement, qui nous paraissent hyper contemporains, sont finalement beaucoup plus anciens que ça. Mais je vois que Anna Kéré, vous opinez, hein, et vous avez sans doute envie de rentrer dans le débat. Alors, je vous passe le micro.
Non, pas du tout, mais c'est vrai que c'est Rennes, la grande peut-être singularité, c'est la capitale et elle est totalement à l'est de la Bretagne. Et les gens qui habitent à l'ouest de la Bretagne se méfient aussi. C'est vrai qu'il y a une certaine
vue de Brest, méfiance. C'est déjà Paris, c'est presque
voilà,
ça.
Vue de Brest, c'est déjà Paris. Et alors la grande question aujourd'hui, même pour les Finistériens, c'est et si un jour on a une Bretagne à 5 départements et si Nantes est là? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est vraiment une question du Finistère, parce que ici, les gens se disent non, il faut que, voilà, on voit ça très bien, c'est deux grandes métropoles, à l'est de la Bretagne, ça va bien marcher, enfin, voilà, les partisans d'une Bretagne à 5 départements espèrent cette espèce de grosse région économique drainée par deux métropoles.
Une capitale plus administrative, une autre plus économique, Nantes.
Mais à l'ouest de la Bretagne, on se méfie.
On se méfie, c'est vrai, on l'a d'ailleurs bien perçu à travers un article que nous avons commandé à des spécialistes brestois de l'Institut de Géo-Architecture, Daniel Lequédic et Lionel Prigent, qui nous expliquent finalement pourquoi, vu de Brest, Rennes paraît si loin du Finistère, hein, c'est le titre que nous avons donné à leur analyse, et ils montrent bien effectivement ce mécanisme-là, et en même temps, on peut quand même s'interroger sur le fait que, vous le rappeliez, à l'heure de la métropolisation, des pôles d'équilibre, eh bien finalement, la question de la capitale en tant que telle, d'une région administrative, perd de sa pertinence. Et là-dessus, peut-être que, même certainement, Christian Lebar, vous avez des analyses à nous partager là-dessus, hein, avec que nous dit la science politique et l'aménagement de ces questions-là.
Bah, la science politique, elle dit ce qu'Anna disait, c'est-à-dire une des singularités de la configuration à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a quand même deux capitales régionales, de fait, il y a Brest et Rennes, deux métropoles, qui sont aux deux bouts du territoire, donc c'est quand même une situation un peu curieuse. Et du coup, la question est toujours ouverte de savoir si le développement des métropoles bénéficie à l'ensemble du territoire régional, avec toujours des interrogations sur une espèce d'interrogation de principe sur et si Rennes, est-ce que Rennes ne jouerait pas pour Rennes simplement, c'est-à-dire est-ce que vraiment il y a des effets au bénéfice de l'ensemble de la région du développement de la métropole. Et l'un des articles de la revue répond très clairement que premièrement la configuration n'est pas si originale que ça, parce qu'au fond, le décalage entre la métropole rennaise et l'ensemble de la région est à peu près dans les clous de ce qu'on voit dans les autres régions. Et puis d'autre part, oui, c'est bien l'ensemble du tissu régional, y compris économique, qui profite du développement de la métropole. Donc il y a à la fois beaucoup de banalités socio-économiques et beaucoup de fantasmes, je ne dirais pas identitaires, mais en tout cas beaucoup de sentiments d'inquiétude.
Avec quand même des problèmes d'aménagement du territoire, notamment Centre-Bretagne, le problème du transport ferroviaire, le problème de voilà, ça c'est la perte de compétitivité économique dans les petites communes du Centre-Bretagne, et ça c'est une réalité aujourd'hui. Ils sont un petit peu à la traîne quand même, ça.
Un sentiment de décrochage, de relégation, de manque
de relégation. Le problème effectivement que quand on est qu'on peut pas se déplacer forcément facilement en train, enfin que les transports sont difficiles, enfin c'est quand même il y a eu
mais alors le coup, c'est pas spécifique à la Bretagne.
Oui, je serais même tenté de vous dire qu'en Bretagne c'est quand même presque mieux qu'ailleurs. Quand on regarde le maillage routier ferroviaire dont nous disposons, il y a quand même matière à se dire que ça fonctionne plutôt mieux qu'ailleurs.
Il y a quand même un déséquilibrage et qu'il y a un problème d'aménagement du territoire, notamment pour le centre Bretagne, qui reste aujourd'hui un problème. La route centrale, par exemple, la voie express centrale.
Pas terminée, malgré les promesses répétées depuis
40 ans.
C'est évidemment un des points qu'on aborde. Ce qui nous a frappé aussi dans ce dossier et dans la manière dont on a questionné cette ambivalence, ce lien compliqué entre Rennes et la Bretagne, c'est que selon l'endroit où on se place, et ce que vous disiez, Anna Kéré, le confirme totalement, eh bien, le regard porté sur la question est totalement différent. Si vous interrogez des Rennais, ou si vous interrogez des Bas-Bretons, des Brestois, des gens de Carhaix, du centre-Bretagne, eh bien, effectivement, les perceptions sont pas les mêmes. Alors, pour peu qu'en plus, ces gens-là, notamment de la partie la plus occidentale de la Bretagne, soient aujourd'hui Rennais, mais ils n'ont quand même pas complètement oublié d'où ils viennent, et ça donne lieu à des discours, on en a rencontré certains, où, effectivement, il y a à la fois la volonté de défendre une identité culturelle et bretonne forte et une forme de rébellion contre le regard porté par allez pour faire court Rennes et l'est de la Bretagne non bretonnante sur ce que eux entendent comme une insulte. On parle parfois des Brézous et oui. On a rencontré Yann Lemeur, oui. que vous connaissez, qui est à la fois un chef d'entreprise, oui. Un spécialiste des finances locales, ressources consultant en finance, ah. Qui est aussi un sonneur, donc il a raflé des tas de prix dans des festounos, et puis aussi un écrivain. Il a publié plusieurs ouvrages, encore un récemment, oui. tout à fait intéressant, et il parle breton, Yann, et lorsque je l'ai rencontré pour des de cette question, il faisait part de ce sentiment, un peu le coup du mépris, quoi, ras-le-bol du coup du mépris.
Oui, il disait ça, c'est vrai que j'ai lu également le petit papier qui lui est consacré. Sur Brézou, honnêtement, franchement, il n'y a pas que à Rennes qu'on entend ce problème-là. Enfin,
il paraît que le terme a été inventé à Rennes.
Ah oui, c'est possible, ouais, tout à fait. Après, c'est une expression un petit peu méprisante, pas très sympathique, qu'on accole à des gens soit qui parlent breton, soit qui s'intéressent à la culture bretonne, et effectivement ça n'existe pas qu'à Rennes. Après, effectivement, lui le remarque, et oui, c'est normal qu'il
on sent que c'est un sujet
touchy, ouais, par contre, c'est vrai que ouais.
On le comprend. Christian Lebar.
Alors je ne suis ni au breton ni bas breton, mais j'ai envie de poser la question suivante, parce que je trouve que la question de la domination symbolique et du stigmate est extrêmement compliquée, parce que effectivement historiquement on peut imaginer que la capitale rennaise regarde un peu de haut les périphéries et la péninsule brestoise, et en même temps je pense que depuis quelques décennies il y a quand même un fort retournement autour de l'idée du régionalisme, mais au fond la vraie Bretagne ce serait le Finistère, et ce serait les périphéries plus que les marges. Donc il me semble qu'en termes de on est sur un modèle finalement assez équilibré aujourd'hui.
Il y a eu un
retournement du stigmate.
Oui, en partie, en fait, il y a eu un renversement symbolique sur les langues régionales en général. Là, ouais. On peut aller plus loin que le breton, on peut parler du basque, de l'occitan, etc. Globalement, il y a depuis les années 70 à peu près un renversement symbolique, ouais. En même temps que le nombre de locuteurs de toutes ces langues régionales baisse fortement. Il y a un élan un renversement symbolique. C'est mieux vu qu'auparavant de parler une langue régionale, alors qu'avant c'était quelque chose de c'était la langue des ploucs, des paysans. C'est ce que je dis un peu dans mon introduction. Le breton, langue des ploucs, des paysans. C'est pas moi qui le dis, bien sûr. C'est les gens qui le taxaient, cette langue, comme ça, comme le gallo, comme d'autres. Aujourd'hui, c'est bien vu de parler breton. C'est sympa de parler breton. C'est intéressant de parler breton. Même moi, quand j'étais au collège,
c'est furieusement tendance.
C'est furieusement tendance, alors que moi-même, quand j'étais au collège, j'avais option breton, c'est dans les années 80, c'était super mal vu. Et pourtant, la plupart des parents de mes camarades le parlaient. Mais ça faisait vraiment pas. Là, franchement, pour draguer dans la cour de collège, ça passait pas, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est super bien vu. Et donc, Rennes, qui est une capitale, eh bien, aussi s'empare. Enfin, voilà, ça devient aussi une charge positive.
Un attribut de modernité.
Voilà, un attribut de modernité. Et du coup, comme ça marche bien, ben voilà, une grande ville. Eh bien, s'en empare également. Je pense que c'est lié à ce renversement symbolique.
Donc, ouais. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui un rapport de force entre Rennes et Brest qui est favorable en termes socio-économiques à Rennes, mais en termes culturels, je suis pas persuadé. On pourrait même presque faire le diagnostic d'un renversement.
Et puis on sent bien qu'il y a aussi la volonté de rayonner, c'est un mot à la mode hein, dans tous les discours politiques, le rayonnement de la métropole notamment est régulièrement mis en avant, et on sent bien que la Bretagne peut y aider, parce que à l'international, la Bretagne jouit quand même d'une notoriété, d'un aura supérieur à celui de la seule ville de Rennes, évidemment, et cette capitalisation-là, sans mauvais jeu de mots pour la ville capitale, peut aussi apporter des dividendes en termes d'attractivité, et on sait que dans la compétition que se livrent aujourd'hui les territoires, ce sont des choses qui comptent.
Mmh, Oui, oui, tout à fait. Et puis même, ça, il suffit de voir à quel point certaines entreprises s'emparent de un peu cette marque Bretagne et de la langue bretonne pour faire valoir aussi leurs produits. Hein. On met du braise à tout va, voilà. Ça devient effectivement comme une petite marque de fabrique en plus.
Gwen, parce qu'il est blanc, du, parce qu'il est noir. Et ce drapeau breton est aujourd'hui tellement célèbre que beaucoup s'imaginent que c'est un drapeau traditionnel. Eh bien, c'est faux! Le Gwenadu est une création en fait assez récente, imaginée en 1923 par Morvan Marchal, poète, membre du mouvement artistique des Seisbreurs, et aussi rédacteur de Braise à Tao, la revue du nationalisme breton.
Est-ce que vous pensez justement, Anna Quéré et Christian Lebar, que ce travail-là, de réappropriation progressive d'une identité bretonne, une réappropriation, voire création dans certains cas, par la capitale régionale, par Rennes, va finalement modifier l'image que ce territoire peut avoir vue du reste de la région. Je vais vous donner quelques qualificatifs, on les a pas inventés. Si je vous dis qu'elle est emmerdeuse, qu'elle est assoupie, qu'elle est parisienne, qu'elle est snob, suffisante, policière, incolore et usurpatrice, de qui suis-je en train de parler? Vous l'avez deviné, je parle de Rennes. On ne les a pas inventés, ce sont des qualificatifs qui ont été puisés aux meilleures sources dans des discours, dans des écrits publics, et qui, à différentes époques, et même très très récemment, ont encore été utilisés pour qualifier la ville de Rennes. Ça va changer, ça, vous croyez, ce Rennes bashing?
C'est possible. Après, pour rebondir, même si c'est pas tout à fait exactement le même thème, il y a aussi des phénomènes qui se produisent des fois dans d'autres endroits qui sont assez intéressants. Par exemple, chez les Catalans, c'est ce que me disait Philippe Blanchet, que j'ai aussi interviewé pour l'article. Il disait que
qui est universitaire à Rennes 2,
chercheur sur les langues. Il disait que par exemple chez les Catalans, ils ont tendance à vouloir maintenant imposer. Donc ils ont réussi en fait à faire revaloriser leur langue régionale. Et finalement, c'est maintenant aux Valenciens, pas très loin, qui veulent imposer leur langue, et les Valenciens, en fait, ils veulent pas, quoi. Donc, du coup, c'est des perpétuels changements et recommencements.
Peut-être pour conclure cette émission, puisqu'on est à quelques semaines des élections régionales, je sais, Christian Lebar, que vous êtes particulièrement attentif à tous les scrutins et les enjeux démocratiques de territoire. Vous pensez que cette question-là de l'identité va être dans la campagne mobilisée par les différents camps? Qu'est-ce que c'est une question qui fait débat sur un plan politique, selon vous?
J'ai l'impression que, en tout cas du côté des formations politiques dites de gouvernement, pour faire court, j'ai l'impression que la question est pas principalement à l'agenda, ou pas directement, probablement parce qu'il y a le sentiment qu'elle est un peu derrière nous. C'est-à-dire, tout se passe comme si le combat culturel autour de l'identité bretonne était gagné. Et une des façons de dire qu'il est gagné, c'est aussi de montrer à quel point il a essaimé vers les milieux économiques. Voilà, il y a consensus sur la valeur d'une identité qui est devenue une marque. Donc il n'y a plus guère, plus personne à convaincre sur ce plan-là. Donc ça fait très largement consensus, droite-gauche, donc à mon avis, on va pas tellement être là-dessus, et je vois pas où serait le clivage, en tout cas entre les grandes formations, sur cette question-là.
Anna Quéré, dans les conversations que vous pouvez avoir en tant que journaliste, observatrice également, très attentive de ces questions de territoire, vous sentez les choses comment sur cette question-là?
Sur la question de la langue bretonne,
ouais,
en elle-même.
De la langue et puis de l'identité régionale.
Oui, je rejoindrai mon voisin. Oui, en fait, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'acquis, quoi. Finalement, toutes les listes en Bretagne revendiquent cette appartenance bretonne. Après, effectivement, il y a comme une sorte de consensus. Et quand on interroge, parce que j'ai eu l'occasion d'interroger quelques candidats de petite ou grande liste là-dessus, ou de regarder un peu ce qu'elle disait sur la langue bretonne. Après, c'est pas forcément clair sur la façon dont. Alors, tout le monde veut bien promouvoir la langue bretonne, pratiquement.
Mais de quelle manière
peut se.
Et avec quels moyens, y compris financiers.
Voilà, c'est ça, on est d'accord.
C'est là que effectivement voilà, les arbitrages et les choix sont parfois plus compliqués à exprimer d'une part et à mettre en œuvre ensuite. Christian, vous souhaitiez apporter un mot supplémentaire.
Non, il y avait la question de la charte européenne des langues régionales.
Alors,
aussi.
Ah oui, qui est dans l'actualité, qui n'a pas été ratifiée, le Sénat. Alors, ça a laissé des traces. On a l'impression que.
Alors effectivement, pour la charte des langues régionales, c'est une attente en fait de toutes les régions en France. La France, en fait, a signé cette charte, mais elle devrait la ratifier. Un certain nombre de points devraient être ratifiés, et en fait, elle arrive à tout. En fait, là, c'est les sénateurs qui en fait empêchaient tout processus qui pourrait permettre la ratification.
On renvoie au calende grec, comme
oui,
on dit.
Oui, là, c'est carrément renvoyé au calende grec. Après, je pense qu'en Bretagne, en fait, la France n'était pas obligée de ratifier tous les points. Et de toute façon, au point où on en est, mais bon, je parle à mon nom d'observatrice, hein, mais c'est encore à confirmer. Mais la plupart des observateurs à qui j'ai demandé leur avis disent que finalement, la Bretagne, comme ailleurs, n'a pas attendu la charte pour faire quelque chose. Et donc, finalement,
c'est plutôt la bonne nouvelle,
l'enseignement,
ça.
Oui, en fait, on attend. En fait, ce serait presque plus symbolique que concret. Par exemple, en Corse, l'Assemblée de Corse avait demandé la co-officialité du Corse. Bon, et en fait, tant que la charte n'est pas ratifiée, ils ne pourront jamais l'obtenir. Mais en dehors de ça, c'est la même chose. Ils ont, l'enseignement, ça avance, la signalétique, ça avance. Voilà. Et en fait, la plupart des militants pour les langues régionales n'ont pas attendu la charte des langues régionales pour faire survivre leur langue. Quoi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anna Kéré et Christian Lebar, d'avoir participé à cette émission. Et puis, comme on dit en Bretagne, Kenavo.
Kenavo d'Argenta.
Et pour aller plus loin, retrouvez dans la revue Place Publique l'ensemble du dossier consacré au thème Rennes et la Bretagne, un enjeu capital. Sur la question des langues, le breton et le gallo, largement discuté dans cette émission avec notre invitée Anna Kéré, spécialiste des langues régionales. Nous vous invitons à consulter les travaux issus du Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Sur le gallo en particulier, vous pouvez lire les cahiers de sociolinguistique de 2007 disponibles en ligne autour du gallo, état des lieux, analyses et perspectives. Vous y trouverez notamment les enquêtes des universitaires Philippe Blanchet et Thierry Bulot, le gallo, une langue urbaine, ou les discours sur l'espace et les langues bretonnes à Rennes. Et puis vous pourrez vous bercer de mots et de sonorités bretonnes et galaises en consultant le site de Dastum, association de sauvegarde du patrimoine oral de Bretagne. Et puis vendredi prochain à 13h sur Canal B, retrouvez Ricochet, l'émission des étudiants en journalisme de Sciences Po Rennes, qui reviendront également sur les liens entre Rennes et la Bretagne avec toute une série de reportages, de chroniques et de nouveaux invités. Très bonne journée à l'écoute de Canal B.